les membres de la table de quartier du Pile vous invitent à la projection débat du film Pile, permis de démolir, un documentaire du collectif Hiatus. Le jeudi 18 janvier, 19h, au cinéma Le Duplex, 47 Grand Rue, Roubaix. Ce documentaire retrace la lutte d'habitants du Pile à Roubaix pour leur avenir et celui de leur quartier. Plus d'infos, www.duplex.com.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île Five et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyens d'abord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM.
.4, 12h passées 35 minutes sur les ondes de Pastel FM. Bienvenue dans l'émission Citoyens d'abord, spéciale logement, lutte contre les discriminations. Avec nos invités, avec moi sur le bateau Zaz, bienvenue Zaz.
Bonjour.
Farouk, fidèle au poste à la technique, et nos invités du jour de l'APU de l'île FIV, Simon, bienvenue.
Salut.
Et notre ami Tonio, non, docteur Tonio, quand même. On a précisé, on en dira plus tout à l'heure sur notre docteur. Qui est devenu docteur depuis un mois, c'est ça?
Bonjour tout le monde, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais.
Donc on t'appellera docteur pendant toute l'émission. Hein.
Ça y est, c'est les vacances.
Donc aujourd'hui, on va parler d'accès au logement et surtout de discrimination au logement, comme on le fait chaque premier samedi du mois depuis maintenant un certain nombre de mois, les copains. Je sais plus, ça fait quoi, 3 à la 4e,
c'est
plus,
la 4e.
La 4e, ouais. Comme le temps passe vite. Et on va aborder plusieurs sujets, la question des discriminations et ce fameux rapport du CNRS qui est tombé encore, un énième rapport qui confirme les discriminations d'accès au logement liées à l'origine en particulier. On parlera aussi du film qui sera diffusé le 18 janvier au Duplex à Roubaix, un documentaire réalisé par le collectif Hiatus, et Simon est avec moi, et on aura aussi le plaisir d'avoir Luca Rousseau qui a réalisé ce film autour de la mobilisation des habitants du quartier du Pile autour de la table de quartier. Et entre-temps, on aura notre ami Julien Talpin qui devait être avec nous et qui nous a lâché lâchement, hein, comme ça, pour rejoindre ses amis parisiens. On l'aura avec nous au bout du fil. Et en fin d'émission, on recevra Nadia, j'ai oublié son nom, Keddy de Médiacité, qui fait un papier sur la question du logement sur la métropole lilloise, et elle est journaliste à Médiacité. Voilà pour le programme, assez chargé pour ces 1h30 qui nous attendent. L'antenne est ouverte, bien entendu, hein, 0320 73 59 00, et puis trou amstram gram piqué piqué collégramme qui s'est dit commence. À toi l'honneur, docteur.
Non, on va faire. En fait, je vais laisser Simon, mais donc oui, on voulait intervenir un peu sur la question des discriminations dans l'accès au logement. Pourquoi ? Parce que il y a eu un rapport, comme tu l'as dit en fait, qui vient de sortir là. Bon, qui confirme des choses qu'on savait déjà en fait, qui confirme des choses qui sont déjà dites depuis maintenant plusieurs décennies sur cette question des discriminations racistes à l'accès au logement, à l'entretien du logement, à avoir un logement serein. Sain et donc voilà, c'est des choses qu'on connaît mais qui sont bons de rappeler. Je tiens juste à dire que cette question des discriminations, elle faisait l'objet du dernier éditorial du Monde qui disait que effectivement c'était des choses qu'on connaissait, mais c'est des inégalités qui s'approfondissent et qu'elles sont aujourd'hui encore de plus en plus importantes. Et donc voilà, cette question là est fondamentale en tout cas pour nous. Donc peut-être venir avec un petit angle national, et puis moi je ferai un point sur un bouquin qui a été fait par nos collègues de l'APU de Moulins autour de cette question là en 2014 et qui mettait en évidence certaines choses assez importantes. Voilà, donc je vais te filer la parole.
Tu peux nous dire juste le titre du bouquin ?
Donc le titre, c'est « Logement pour tous, combattre les discriminations racistes, agir pour l'égalité ».
D'accord. Aux éditions, c'est un truc, c'est un auto...
Auto-édition, APU Moulin, réalisé en lien avec le collectif Manouchian, qui est un collectif de chercheurs indépendants, voilà, qui intervient dans le Nord.
Moi, je pense que ça mérite une spéciale émission, ça.
Ça pourrait faire l'objet, effectivement, d'une émission beaucoup plus approfondie. On dit juste qu'aujourd'hui aussi, on va donner peut-être quelques infos générales, mais que cette thématique-là, elle va devoir être approfondie, et que le mois prochain ou le mois suivant, on viendra peut-être avec des données plus précises et plus actuelles, en tout cas, sur la question.
Très bien.
Bah ouais, du coup, pour continuer sur ce que tu disais, ouais, d'un point de vue plutôt national, donc il y a cette étude du CNRS qui est sortie en décembre là 2017, donc c'est tout chaud, qui fait suite à une autre étude du CNRS qui avait été déjà faite aussi en 2016, mais qui ont comme lien qu'elles utilisent en fait des techniques de testing, en fait apparemment, donc c'est des techniques qui sont très peu utilisées aujourd'hui en recherche ou pour faire justement des études en France, qui sont plutôt utilisées dans d'autres pays, aux États-Unis, et qui reviennent un peu à créer des espèces d'individus type, donc à qui on va mettre à coller un faux nom, une fausse origine sociale, une fausse origine géographique, etc. Et donc du coup, on va créer comme ça des espèces de profils type qu'on va du coup tester. Par exemple, là, sur la question du logement, on a donc cette étude de 2017, de décembre 2017, elle utilise 8 profils différents avec des personnes avec un nom à consonance arabe, des personnes avec un nom à consonance subsaharienne, etc. Et donc du coup, et à consonance franco-française. Voilà. Donc après, c'est toujours des termes toujours compliqués à manipuler. Mais toujours est-il que du coup, en faisant ça, on envoie donc du coup, on fait écrire à des fausses demandes de visite de logement pour des personnes du coup qui sont en recherche de logement dans plusieurs villes de France, des plus grandes, des plus petites, voilà. Et il ressort de cette étude-là que donc de fait, en fonction de l'origine supposée géographique ou immigrée des personnes, et ben de fait, il y a des différences de réponse de la part des bailleurs, qu'ils soient d'ailleurs du secteur public ou des bailleurs privés, et que donc par exemple, on a cette étude qui nous dit que les populations d'origine supposée maghrébine et africaine ont en moyenne 26% de chances de moins que la moyenne de visiter un logement alloué. Donc ça, c'est un peu le chiffre global, un peu qui ressort de l'étude. Après, il y a des disparités en fonction des villes. Il y a des villes qui sont jugées plus accueillantes que d'autres moins accueillantes.
Il y a des trucs assez bizarres. Hein. On dirait la Côte d'Azur, ça devrait être un peu plus réac. Et en fait, non.
Non, en fait, oui, voilà, des villes comme Nice, qu'est-ce que j'avais noté, Paris,
surpris, moi.
Rouen, sont des villes qui sont jugées plutôt accueillantes, alors que des villes plutôt discriminantes, ce serait Perpignan, Valenciennes, Nancy, Limoges, voilà, enfin...
Donc, enfin, on a des images un peu peut-être préconçues ou des préjugés sur ces villes-là, mais bon. Voilà. Continue, Simon, excuse-moi.
Non, pas de souci. Et donc du coup, voilà, ce testing-là qui a été réalisé. Ce que je trouve qui est important de noter, voilà, c'est qu'il n'y a pas de différence forcément entre le public et le privé, et ça, c'est un truc qui montre que c'est quand même bien établi, et que de plus, il n'y a pas de politique à l'intérieur justement de ces services publics, donc des offices HLM, etc., du logement social, qui prennent particulièrement en question, en compte ces questions-là, quoi, et qu'on retrouve les mêmes problèmes que dans le privé. Cette enquête a été en plus poursuivie par un rapport du défenseur des droits à peu près à la même époque, qui a réalisé lui par contre une enquête, ce qu'il appelle une enquête de perception, c'est-à-dire que lui, au lieu d'aller dans un rapport entre justement comment les bailleurs réagissent par rapport au profil des personnes qui cherchent un logement, il a plutôt été interrogé, donc c'était vraiment un gros truc, je crois que ça a concerné 1000 personnes un peu réparties sur le territoire. Une enquête de perception, donc c'est-à-dire que en fonction de l'origine des personnes, supposées ou réelles, perçues comme noires ou perçues comme maghrébines, etc. Est-ce qu'elles se sentaient ou non discriminées dans l'accès au logement? Donc, il y a des réponses qui sont assez énormes, puisque donc 40% des personnes interrogées perçues comme noires se disent victimes de discrimination liée à l'accès au logement. 30% des personnes perçues comme maghrébines, et il y a aussi couplé, donc ça qui aussi intéressant, parce que quand on parle de discrimination, là on parle de discrimination raciale, mais il y a aussi d'autres formes de discrimination qui sont aussi à mettre en avant, que ce soit la discrimination de type économique, donc ça on pourra en parler aussi, aussi de la composition familiale, et que par exemple 24% des mères qui sont seules avec un enfant en bas âge se disent elles aussi victimes de discrimination Et ça, peut-être qu'on pourra en reparler un peu plus tard, parce que donc par rapport à l'article de Mediacité que dont tu as parlé en introduction, on a le cas d'une personne comme ça qui est dans cette situation-là et qui connaît de gros problèmes pour trouver un logement. Nous, à l'APU, peut-être que Tonio pourra mieux en parler que moi, mais on a aussi ces choses-là qui existent. Et donc voilà, c'est aussi des trucs qu'il faut avoir en tête, quoi.
Ouais, un retour d'expérience très rapide là-dessus, c'est que là, on est au début de l'année 2018, donc nous, on commence à faire le point au niveau de l'association sur tous les dossiers accompagnés en 2017. Et donc là, on a réouvert, je sais pas, on a fait, avec Mathieu, on a fait une 70 dossiers. On avait un nombre de familles monoparentales et donc de femmes seules avec enfants qui était impressionnant. Vraiment, moi, je m'attendais pas à ça. Ça permet à un moment donné de faire un point sur qui on a accompagné. Et donc là, on est juste à 70 dossiers, mais on doit être quasiment 50% des familles accompagnées sur les 70 premiers dossiers sont des femmes seules avec enfants, familles monoparentales. Donc voilà, ce qui est vraiment nous qui nous a interpellés là quand on a mené ce boulot là. Et donc il y a vraiment aussi voilà quelque chose à réfléchir là-dessus, je pense effectivement.
À la discrimination liée à, j'allais dire à l'origine ou à la discrimination raciale vient de s'ajouter bien sûr
voilà,
plus souvent
coupe,
les questions de discrimination de classe sociale, dire intersectionnalité comme on dit souvent. La question sociale, elle est bien sûr fondamentale. J'allais dire la chasse aux pauvres. Je suis venu avec quelques chiffres là de la fondation Abbé Pierre et puis du Secours catholique. Hein. L'exclusion et la précarité en France, quand même, je vais vous donner les chiffres parce que pour moi ils m'ont choqué. Hein. 9 millions de personnes, dont 3 millions d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. On est 66 millions, c'est ça? Et 60% des personnes exclues expriment un besoin d'écoute. Et dans toutes ces personnes-là, il y a 3,8 millions de personnes mal logées. Et ça, c'est les chiffres du rapport 2016 sur l'état du mal logement en France de la Fondation Abbé Pierre. 3,8 millions de personnes de mal logées en France. C'est quasiment 5 à 6% de la population, ce qui est énorme.
Exactement, et je pense que ça il faut le rappeler, c'est-à-dire que en fait les discriminations en tout genre, elles viennent se mettre sur une situation qui est aujourd'hui la pénurie de logements en fait. Juste on n'a pas assez de logements et en plus on n'a pas assez de logements pour les plus pauvres en fait. On ne construit pas assez de logements sociaux, c'est-à-dire que si ces discriminations elles se mettent en place, c'est bien parce qu'il y a une concurrence de malades pour avoir les quelques logements qui sont disponibles et qu'à ce moment-là il y a des opérations de triage qui se font via des services. Mais donc il faut le rappeler en fait, on aurait une vraie politique de construction de logements sociaux et de construction de logements sociaux à hauteur de ce qu'on a besoin par territoire, hein, on aurait aussi ces questions-là qui se poseraient de manière différente. Et on sait très bien que les populations les plus riches arrivent avec assez peu de problèmes à trouver des logements satisfaisants et en bon état, et que c'est effectivement les classes populaires, en fait, dans toute leur diversité, qui galèrent complètement à trouver des logements, qui se font concentrer dans certaines parties du territoire, dans certains quartiers. Et donc voilà, le problème là, il est quand même aussi un problème de fond. Il faut construire des logements, quoi.
12,1 millions de personnes, ça c'est les chiffres de l'INSEE, et je terminerai après avec mes chiffres, de personnes sont fragilisées par la crise due au logement. 12 millions de personnes en France.
Bah, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui...
C'est le chiffre de l'INSEE, pardon.
Le rôle, par exemple, notamment des HLM est un peu mis à mal, parce que, donc, on a, donc, d'après les dernières études, notamment des rapports de la Fondation Abbé Pierre qui ont été fournis. De fait, les logements HLM aujourd'hui accueillent de plus en plus de personnes aux revenus très très modestes. Donc ils séparent en quartiles, donc en séparant en fonction de revenus très très modestes, revenus modestes, etc., etc. Mais du coup, il y a une pression qui est telle que du coup, il y a plus en plus de gens qui ont besoin de se loger dans ces logements-là parce que le privé est beaucoup trop et devient de plus en plus inaccessible. Et donc du coup, de fait, il y a de plus en plus de gens qui le demandent. Il n'y a pas plus de logements qui sont construits dans le même temps. Et donc du coup, ça crée une concurrence énorme au niveau de ces personnes-là, qui sont les personnes qui sont le plus en demande. Et après, on en reparlera. Mais dans les objectifs actuels qui sont mis en place par les pouvoirs publics de rééquilibrer un peu les territoires, etc., en plus par rapport aux personnes qui sont dans les logements sociaux, l'idée c'est de dire oui, d'accord, il faut mobiliser des HLM, des logements publics pour les personnes les plus en précarité, mais il ne faut pas non plus qu'on crée des ghettos. Et donc là, on en parlera peut-être plus tard. Et quand je dis ghetto, j'utilise le terme qui est employé. Hein. On peut revoir ce terme, évidemment. Et donc, du coup, on voit qu'il y a une pression de plus en plus forte qui se fait sur les classes sociales qui sont justement dans ces chiffres que tu cites juste avant. Et en plus de ça, autre chose qui est assez intéressant à voir, c'est que comment donc du coup l'État ou la loi essaye de prendre en compte ces questions-là, parce que comme disait Anthony en préambule, c'est des choses qu'on sait depuis très longtemps. N'empêche que il y a des choses qui sont mises en place au niveau de l'État. Il y a la loi égalité et citoyenneté. Il y a des choses comme ça. Il y a par exemple au niveau des départements ou de la métropole pour l'aide à la recherche de logement, donc ce qu'on a des dossiers qui sont mis en place, FSL, PDALPD. Donc c'est des termes un peu techniques, mais pour les gens qui connaissent, c'est des dossiers qui aident justement les personnes qui sont en difficulté de recherche de logement à pouvoir justement faire valoir leur dossier auprès d'un bailleur public ou privé. Sauf qu'en fait, à chaque fois, c'est des obligations qui sont données, qui sont des obligations de moyens et jamais des obligations de résultats. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas aller voir si ces systèmes-là sont réellement efficaces ou pas. Ce qui intéresse l'État, ce qui intéresse au regard de la loi, c'est de savoir que ça existe, juste faut le mettre en place. Et sauf qu'en fait, c'est des choses qui ne prennent pas en compte toutes les problématiques et qui du coup font que c'est des systèmes qui sont aujourd'hui défaillants pour une partie d'entre eux, en tout cas, notamment sur la métropole lilloise, quoi.
Très bien, merci Simon en tout cas pour cette première partie d'émission. On a au téléphone avec nous au bout du fil depuis Paris, je disais qu'il nous a lâché en pleine race campagne, Julien Talpin. Julien, bienvenue sur les ondes.
Bonjour.
Bonjour. Donc Julien Talpin, vous avez le son là les copains là le bouton là, voilà. Donc Julien Talpin, chercheur au CNRS et enseignant à Lille, si je dis pas de bêtises. Julien, on était sur ce fameux rapport du CNRS, ce énième rapport encore une fois sur la question des discriminations liées au logement. Simon était en train de revenir là-dessus et sur les chiffres de cette étude. Qu'est-ce que toi, de là où tu es sur les questions de discrimination d'un point de vue global et général, tu peux nous dire de cette étude, de cette enquête?
Alors effectivement, cette étude elle est importante parce que c'est la première étude de cette ampleur qui a été menée en France. Simon le rappelait, 5 000 réponses envoyées, 5 000 offres de logement, 25 000 réponses envoyées, qui couvrent 50 villes en France, les plus grandes villes du territoire, et qui démontrent de façon incontestable et scientifique l'existence de discrimination dans l'accès au logement, aussi bien dans le parc privé que social. Et donc c'est hyper important d'avoir une méthode fiable, et là donc par le testing, comme le rappelait Simon, en envoyant les mêmes types de réponses avec des gens qui ont le même type de profil, le même salaire, la même situation sociale, etc., mais dont la différence simplement c'est de ne pas avoir le même nom, avec des noms à consonance, certains diraient françaises et d'autres étrangères, quand bien même bien souvent il s'agit de gens qui sont dans tous les cas français, avec des taux de réponse très très différents. Et donc avec ce type de méthode de testing, on peut démontrer que toutes choses égales par ailleurs, ceux qui sont perçus comme noirs ou arabes ont beaucoup moins de chances d'accéder à un rendez-vous pour trouver un logement et donc de trouver un logement. Et donc on peut plus le nier, quoi. C'est une réalité scientifiquement démontrée. Et pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'on reste quand même dans une situation en France qui est de déni très fort de l'existence des discriminations, que ce soit dans le domaine du logement ou d'autres domaines comme l'accès à l'emploi, les rapports avec la police, etc. Pour vous donner un petit exemple, je mène actuellement une enquête avec des étudiants à l'université de Lille, notamment sur des questions de discrimination dans l'accès au logement sur la métropole lilloise, et les étudiants devaient rencontrer, faire des entretiens avec des bailleurs privés, des bailleurs sociaux également. Ce qui se dégageait notamment des entretiens, c'est que les bailleurs disaient « oui, mais les discriminations, on n'est pas sûr que ça existe vraiment, il faudrait le démontrer ». Et donc ils sont encore dans un discours très très fort de déni de l'existence de ces réalités-là, quand bien même il y a un certain nombre d'études, celle qui est sortie en décembre là, est la plus récente et la plus systématique, mais il y avait déjà d'autres éléments qui avaient été mis en avant. Et donc face à ce discours de déni qui est très fort et qui pousse les gens à ne rien faire au fond, pour lutter contre, qui pousse les bailleurs à ne pas mettre en place des dispositifs pour lutter contre ces discriminations, on va pouvoir, je l'espère, avancer avec cette base de connaissances communes qui démontre l'existence de ces discriminations, qui sont multifactorielles. Il y a le revenu, les mères célibataires sont touchées également, c'est évoqué, mais la première cause de discrimination dans l'accès au logement que démontre cette étude, c'est les discriminations liées à l'origine. On a une difficulté particulière en France à reconnaître l'existence des discriminations ethno-raciales, et là, ça me semble tout à fait clair. Et donc voilà, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour sortir du déni, quoi.
Zitonio, juste... dire une... Zitonio, je t'en prie.
Ouais, juste faire une remarque. Donc, dans l'ouvrage qui a été réalisé donc par les camarades de l'API de Moulins, ils mettent en évidence que ces discriminations, elles sont très souvent non pas directes, c'est-à-dire qu'on n'explique pas immédiatement, on donne pas comme justification l'origine sociale des personnes pour leur refuser et avoir un traitement inégal, mais que c'est beaucoup des formes de discrimination indirectes qui sont assez peu perceptibles et donc qui sont difficiles à calculer aussi, difficiles à essayer de rendre compte de ces choses-là. Et donc voilà, c'est ce qui fait aussi que les chiffres et des tout un tas d'arguments pour pouvoir prouver ces choses-là sont très difficiles à mettre en œuvre, en fait.
Et Julien, est-ce que cette enquête ou cette étude vient confirmer la précédente enquête de l'INSEE et du CNRS sur trajectoire et origine liée à la discrimination?
Oui, oui, ben on a désormais à
au vu de la masse
de connaissances, de rapports, etc. Alors, trajectoire et origine, c'était une enquête qui portait sur d'autres types de discrimination également, pas uniquement sur le logement, et qui se concentrait principalement sur les Français issus de l'immigration de deuxième génération. Là, c'est un petit peu plus large, mais effectivement, tous les éléments sont convergents. Après, comme l'évoquait Tonio à l'instant, le gros des discriminations, c'est pas forcément lié à des gens, par exemple, des gens qui travailleraient chez des bailleurs qui seraient directement et ouvertement racistes. Quand bien même, ça peut arriver. Petit exemple qui était sorti il y a un an dans la presse, où une consigne avait été donnée sur une annonce pour un logement par une agence immobilière, c'était La Forêt, je crois,
si
je ne m'abuse, qui indiquait nationalité française obligatoire et pas de noir. Donc ça, c'était pas dans l'annonce qui apparaissait sur le site, évidemment, mais consigne était donnée aux salariés de trier les demandeurs de logement sur la base de leur couleur de peau. Voilà, c'est néanmoins, ce genre de choses sont néanmoins relativement rares. Et c'est bien souvent des fonctionnements institutionnels routinisés qui sont moins directs, qui conduisent à écarter un certain nombre de dossiers, de demandeurs. Pour prendre un autre exemple, il y a l'association Kif Kif, qui est basée à Lille, à Oisem, qui a mené également un testing sur la question de l'accès au logement dans le parc privé, donc sur l'île, il y a un an et demi maintenant. Alors c'était sur un échantillon beaucoup plus faible, c'était une centaine de cas. Mais eux, ce qu'ils avaient fait, en fait, c'est qu'ils avaient de la même façon répondu à des annonces avec des gens qui avaient les mêmes profils, donc le même type de salaire, de situation sociale, etc. Sauf que les gens qui appelaient avaient des notamment ils avaient un cas de gens qui appelaient qui n'avaient pas d'accent, et une personne qui appelait qui avait un accent qu'on peut considérer comme maghrébin. Bah, il se trouve que la personne qui avait un accent qui était perçu comme maghrébin obtenait beaucoup moins de rendez-vous pour visiter les logements, quand bien même son dossier était identique à l'autre. Et donc on a comme ça quand même des façons de filtrer qui sont directement racialisées, et donc ça continue à exister. Après, peut-être un point, et Simon l'a évoqué quand même, c'est de dire que il y a cette institution, le défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, donc une institution qui est publique mais indépendante de l'État, qui mène quand même un gros travail depuis quelques années sur ces questions-là. Ils ont encore sorti un rapport donc sur la discrimination dans l'accès au logement en décembre dernier, qui se base donc sur la déclaration de perception de discrimination, qui là aussi met très clairement en avant, donc comme le disait Simon, le fait que les gens qui sont perçus comme noirs ou arabes font beaucoup plus d'expériences discriminatoires. Et donc, voilà, y compris au sein d'institutions aujourd'hui, il y a une reconnaissance de ces problématiques-là. Le problème, c'est que on a du mal à faire bouger les lignes. Ce que montrait bien en évidence aussi le rapport du défenseur des droits, c'est qu'il y a très peu de plaintes qui sont déposées. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment, alors c'est toujours difficile de les démontrer, qu'ils ont été discriminés, mais ils vont pas forcément porter plainte ou essayer de poursuivre un peu le truc. La raison principale du fait qu'il y ait très peu de plaintes qui soient déposées, ou même le fait simplement de débruiter un peu l'affaire, c'est que les gens, c'est la raison première, ont le sentiment que ça ne servira à rien.
Parce qu'il y a souvent du classement sans suite. C'est ce qu'il y a comme retour.
voilà, c'est toute la difficulté en fait de réussir à démontrer par A plus B que la personne a été discriminée pour telle ou telle raison, que ce soit son origine ou ça peut être d'autres facteurs, son orientation sexuelle, moi je sais pas. Il y a 22 critères officiels de discrimination désormais. Donc c'est dur à prouver, si bien qu'effectivement il y a beaucoup de classements sans suite. Bon, puis après il y a pas véritablement de travail institutionnel qui est fait pour sanctionner les gens qui sont démontrés, dont il est démontré qu'il y a eu discrimination. Pourquoi un exemple qui est en dehors du cas du logement, il y a un testing qui avait été mené il y a quelques années sur la discrimination à l'embauche. Il y a des entreprises comme Courte Paille ou le groupe Accor, donc des hôtels, où, qui étaient démontrés par le testing qu'ils discriminaient assez massivement à l'embauche. Aucune sanction directe n'a été attribuée à ces entreprises-là. Si bien que moi, ce que je dis souvent, c'est que ça ne coûte pas cher de discriminer en France. Il n'y a pas beaucoup de conséquences. On en parle vite fait quand un rapport sort. Là, il y a eu un article dans Le Monde, par exemple, en décembre dernier, suite à la parution de l'étude CNRS, et sinon on n'en parle pas beaucoup, et il y a peu de sanctions financières. Si bien que les entreprises n'ont pas forcément une grosse incitation à modifier leurs pratiques et à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc il y a pas mal de choses à faire, je pense, et je crois vraiment que le rôle d'association, j'ai évoqué Kif, on a parlé aussi de l'APU de Moulins, l'APU de FIV évidemment aussi, si on prend juste le cas de la métropole lilloise, les associations ont un rôle énorme à jouer pour pousser les institutions à bouger quand elles sont un peu réfractaires à le faire.
Merci Juju en tout cas, et puis bonne formation et salutations à nos camarades.
Eh ben, c'était un plaisir, bonne émission, à bientôt.
Merci, au revoir. 13h passées de 1 minute déjà, comme le temps passe vite les copains. On fait une petite pause Farouk, on va recevoir dans quelques instants avec nous sur le plateau Audrey et Lucas qui va nous appeler depuis Paris, décidément tout le monde a migré à Paris ce week-end. Non, lui c'est un Parisien, là, il peut. Donc on se fait une petite pause, on passera une petite demi-heure ensemble autour de la projection de ce film. Je vous invite à noter sur vos tablettes et sur vos agendas, jeudi 18 janvier, 19h au cinéma Le Duplex à Roubaix, puis il permet de démolir un documentaire du collectif Hiatus avec nous Simon et on aura Lucas aussi au bout du film. Les membres de la table de quartier du PIL vous invitent à la projection des bancs. Venez, c'est l'histoire de la lutte du PIL, la lutte des habitants du PIL et de leur avenir et celui de leur quartier. Voilà, 13h, petite pause musicale Farouk. Oui, possible? Yes, we can. Thank you.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h. Sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3h, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. L'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage » ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent, devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela, que tant de douleur nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris, Merci.
À chacun et à tous, SDF, sans droit, sans abri, sans papier, une bonne année 2018.
99.4, la diversité qui vous rapproche.
Les membres de la table de quartier du Pile vous invitent à la projection débat du film Pile, permis de démolir, un documentaire du collectif Hiatus. Le jeudi 18 janvier, 19h, au cinéma Le Duplex, 47 Grand Rue, Roubaix. Ce documentaire retrace la lutte d'habitants du Pile à Roubaix pour leur avenir et celui de leur quartier. Plus d'infos, www.duplex.com.
Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux.
Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire.
Et je prends mon vieux cheval, et j'attrape ma vieille selle, et je selle mon vieux cheval pour aller chercher ma belle. Et je prends mon violon et j'attrape mon archer, et je joue ma vieille balle pour faire mes amis danser.
Et travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Mander la charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux.
Moi je fais la musique, c'est presque tous les soirs. Après traîner tout partout, chanter dans un chicha bar. Et des fois tu connais, j'aimerais lâcher, m'en aller. Mais je suis venu ce soir pour le plaisir de chanter.
Et travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux. Charité, c'est quelque chose que je veux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre vieux.
Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère de vivre.
Treize heures passées, 10 minutes, toujours dans l'émission Citoyen d'abord, spéciale question de discrimination au logement. Nous a rejoint sur le plateau Audrey, habitant du quartier du Pile. Bienvenue Audrey.
Merci, bonjour.
Toujours avec moi, Tonio et Simon, fidèles au poste. Et puis, on va recevoir dans quelques instants notre cher Luca Ruxo, qui est un des réalisateurs avec Simon de ce fameux documentaire que vous aurez le plaisir de voir le jeudi 18 janvier, 19h au cinéma Le Duplex. Pile, permis de démolir, un documentaire du collectif Hiatus. Pour planter juste le décor, hein, pour que vous sachiez de quoi on parle, Luca est déjà avec nous au téléphone. Depuis plusieurs années, sur Roubaix, une mobilisation sur le quartier du Pile s'est faite autour de problèmes de logement et de relogement. Des dizaines de maisons ouvrières murées par les pouvoirs publics dans l'attente d'un lancement de programme de requalification urbaine, c'est comme ça que ça s'appelle, le PMRCAD. Celui-ci a été lancé en 2013, la mobilisation autour de la table de quartier s'est faite en 2015-2016, et pensant pouvoir être associés à la rénovation de leur quartier, de nombreux habitants se rendent compte du peu de place leur est accordé et décide de s'organiser avec le soutien des associations locales. Ce documentaire revient sur la lutte de plus de 2 ans d'un collectif d'habitants et d'associations et de décideurs sur le projet de rénovation urbaine du quartier, comme il en existe d'autres en France. Et à partir de ces témoignages de plusieurs acteurs et actrices, ce documentaire souligne le processus de rénovation dans le quotidien de ses habitants. Dans la formation de la formation de mobilisation collective et des difficultés face au manque de moyens d'action, en passant par le sentiment de mépris régulièrement dénoncé, ce documentaire permet également de retracer les étapes de lutte, rappelant que les quartiers populaires sont loin d'être des déserts politiques. C'est un peu l'histoire de ce film, de cette mobilisation. Et on va tout de suite en parler en prenant Luca au téléphone, qui est un des réalisateurs avec Simon. Luca Ruxo, bienvenue sur l'antenne.
Merci, bonjour.
Bonjour Luca. Peut-être revenir un peu sur la genèse de cette histoire et de ce film, et comment en êtes-vous arrivé à faire un film sur cette histoire de lutte des habitants du quartier du Pile?
C'est-à-dire qu'avant de penser à faire un film avec Simon, donc le co-réalisateur, on a accompagné un peu les habitants et les habitantes.
Allô, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Ouais. Ton live, hein.
Oui, donc on a accompagné le collectif de la table de quartier plus par intérêt et par curiosité. Et puis au bout d'un moment est venu dans un des sujets des habitants et des habitantes qui participaient aux réunions de la table de quartier l'envie de laisser une trace, l'envie de peut-être d'avoir un objet mémoriel qui puisse retracer leur mobilisation, parce qu'il y avait la crainte que la lutte allait s'essouffler, et du coup les habitants et les habitantes, comme les associations, voulaient garder une trace de tout ça. Et c'est là en fait où est venue l'idée peut-être d'en faire d'abord des interviews, des vidéos, et puis assez rapidement l'idée d'en faire un documentaire pour à la fois raconter tout ça, et puis à la fois avoir un bel objet, c'est-à-dire quelque chose qui mette en valeur ces 3 années de mobilisation.
Très bien. Simon?
Ouais, je pense qu'il y a assez bien résumé. Il y a cette idée-là, évidemment. Il y a l'idée aussi, du coup, on en reparlera peut-être plus précisément avec Audrey, mais de trouver justement les moyens d'expression d'une lutte qui, justement, dans un contexte de rénovation urbaine où, en général, le mot d'ordre des pouvoirs publics, c'est oui, il faut de la coparticipation des habitants, il faut de la co-construction, il faut. Et à partir du moment où les habitants, en gros, l'ouvrent, ça va plus. Et donc, du coup, on est dans un espèce de rapport paradoxal à cette question de la participation et de la place des habitants dans la rénovation et, du coup, dans l'avenir de leur quartier, quoi. Parce que c'est eux les premiers qui vont subir ou jouir des travaux en fonction de comment ils sont réalisés. Donc, voilà, c'est, étant donné que la parole des habitants, elle peut pas être prise en compte directement par les pouvoirs publics, à nous de créer nos médias, à nous de justement raconter notre histoire comme on a envie de la raconter et pas qu'elle soit déformée. Et donc du coup, ça a pris la forme avant le film aussi de, Audrey en parlera mieux que moi, mais d'un journal qui s'appelle À Table et qui racontait justement cette histoire. Donc voilà, c'est témoigner, c'est échanger avec d'autres quartiers aussi en France où il se passe un peu les mêmes choses. Et du coup, le film est aussi conçu pour pouvoir être projeté dans d'autres quartiers. On en a fait des rencontres avec des gens de Marseille, avec des gens de région parisienne, etc. Là, on va le projeter aussi à M, dans un quartier dont on a parlé à la dernière la dernière émission à la Lyonderie qui subit aussi un projet de rénovation urbaine. Donc voilà, c'est de faire de l'échange, c'est que les gens puissent être là aussi pour témoigner, pour qu'il y ait un débat avec la salle, etc. Et pour se donner des billes chacun, quoi, se dire, nous on a fait ça, ça a marché, ça a pas marché, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que si on fait pareil, comment on pourrait aller mieux et comment on pourrait voilà vraiment constituer un contre-pouvoir et créer de l'autodéfense des habitants, quoi, voilà, face à une machine qui souvent est très compliquée à voilà quoi, à appréhender, quoi.
Lucas, peut-être une question encore sur comment vous avez fait pour réaliser ce documentaire. Je veux dire, comment ça s'est passé? C'était simple? C'était quelque chose de facile, plutôt laborieux? Je veux dire, les difficultés que vous avez rencontrées, comment, un peu, racontez-nous, Simon et Lucas, comment vous y êtes pris, quoi?
La tambouille.
Est-ce que c'était,
Il y a deux choses en fait dans votre question, c'est-à-dire il y a tout l'aspect technique et puis après il y a l'aspect plus de raconter une histoire, comment on raconte une histoire. Donc pour commencer par l'aspect technique, le film il est marqué par le saut du système D, hein, c'était de la débrouille. Donc on a tourné avec du matériel qu'on avait déjà, on a eu très peu de financement, donc les quelques financements qu'on a nous servent à payer un tout petit peu de post-production, donc du mixage, de l'étalonnage, la fabrication d'un support pour le projeter dans un cinéma. Mais sinon c'est vrai qu'on l'a fait un peu avec nos propres moyens, ouais, à l'arrache complètement. Mais c'est aussi ça qui je pense fait la qualité et la force du projet, c'est-à-dire que voilà, bon, le film il est beau, mais il a aussi le côté un peu à l'arrache que peut avoir le quartier dans lequel on a tourné, quoi. Et puis même la lutte des habitants et la construction du journal à table, voilà, c'est des choses qui se font au fil de l'eau, où on prévoit pas forcément à l'avance comment ça va se passer, où on s'adapte, et c'est un peu dans cet état d'esprit que le film a été fait. Et après sur l'histoire, nous on a essayé de rester au plus près de ce que les habitants voulaient et les habitantes voulaient mettre en avant, de la chronologie de comment ça s'est passé, avec bien sûr des choses que comme on n'était pas forcément dans la mobilisation, le recul qu'on avait nous permettait de voir aussi des choses de l'extérieur. Donc il y a des thématiques qui sont ressorties et dont on a essayé d'en faire les fils rouges. Il y a la question de la prise de parole, la question de l'expression des habitants. Il y a la question de peut-être aussi de l'autogestion, comment on s'auto-organise avec des habitants et des associations pour mener une mobilisation jusqu'à son terme. Il y a la question du mépris, comme vous l'avez dit au début, et donc tout ça, voilà, c'est des fils rouges du film qu'on a essayé d'intégrer à un récit chronologique des événements.
Audrey, peut-être un mot là-dessus? Audrey, je rappelle, habitant du quartier du Pile, qui a suivi l'évolution de la table de quartier, du journal à table, du film.
De tout, de la rue très médiatisée pour des choses pas forcément...
Pas terribles.
Terribles, exactement.
On peut dire le nom de la rue ?
La rue de C. La rue qui est devenue une des rues où les maisons sont invendables, je précise.
Oui, oui, où tu habites.
Exactement. La rue où les seules maisons qui sont vendables ou vendues, ben c'est la mairie qui les prend, hein, bien sûr, pour en faire des taudis, des endroits, des maisons murées. Voilà, c'est la rue des maisons murées, hein. Faut pas se le cacher. Un mot à dire sur l'évolution, ben c'est qu'au départ on a eu beaucoup de réunions à la maison des projets où on se disait qu'il y avait des échanges, et puis au final c'était, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, c'était que de la poudre aux yeux. On nous parlait de co-travail, de co-gestion, de co-machin, de co-truc. Il y a rien eu du tout. Les décisions ont été prises en amont sans, j'en suis convaincue, la participation des habitants. Quand on nous parlait de pouvoir reloger des personnes, le temps de réhabiliter les maisons pour les aider, alors le projet est beau, hein, je remets pas ça en cause, mais les personnes qui avaient une maison potable, qui voulaient partir, utiliser leur maison pour faire des maisons tiroirs et reloger les personnes, c'était aussi une solution proposée par la mairie, et les gens qui proposaient leur maison pour en faire des maisons tiroirs se sont fait jeter. J'en parle en connaissance de cause, hein. Moi je me souviens la phrase de notre élu qui m'a dit je n'organiserai pas la fuite des habitants, vous en faites partie, et je lui ai répondu sèchement en réunion publique, donc quand on achète à Roubaix, on crève à Roubaix.
Ça mérite d'être clair.
Ça a le mérite d'être clair, net, précis. Après, je vais jamais par quatre chemins. Et après, au-delà de ça, je pense que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, hein. Le projet est beau. Par contre, en termes d'organisation, vouloir acheter des maisons et demander l'expropriation des gens sans leur proposer des solutions de relogement, je trouve que c'est sale. Voilà. Qu'on parle de personnes qui ont un certain âge, à qui il faut proposer des vraies solutions, pas une solution où je te mets dans un appart au sixième étage ou dans une maison à peine réhabilitée, à condition que si tu vends pas, machin. Enfin, pour moi, il y a plein de non-sens dans ce qui se passe. Et dans l'idée, au final, moi, je me dis que voilà, ça a démarré en 2013, on est aujourd'hui en 2018, ça fait 5 ans.
Déjà.
Rien n'a bougé. C'est-à-dire que quand
ça s'est aggravé même.
Ça s'est aggravé, et quand j'ai eu l'occasion de voir des personnes de diverses institutions, que je préfère pas nommer, enfin, mais bon, des personnes avec qui j'avais des contacts en disant, mais vous démolissez quand pour faire les fameux espaces verts dans la rue de C, Jules Guesde, où on nous promettait presque, pourquoi pas, d'aller manger un champignon hallucinogène. Enfin, faut arrêter, quoi. On nous promet du rêve, hein. Enfin, moi, je suis désolée, je crois plus aux bisounours. Mais, quand on nous dit, ben, on va faire des beaux espaces verts et que je demandais à une personne en particulier, ça va être démoli quand? Ah, mais là, on commence dans trois mois, ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'on promet de faire des démolitions pour et abattre les maisons murées qui servent à rien, qui sont des niches à tout et à rien aussi. Et on vit, enfin en tout cas moi je vis à côté de maisons murées, pas plus tard que cet été. J'ai dû appeler plusieurs fois le service d'hygiène parce que j'avais un ratatouille qui était plus gros que mon chat, qui était sur le
ratatouille, tu peux préciser.
Un rat,
voilà.
Qui était plus gros que
les
gros
enfants
que mon
compris,
chat.
Les adultes peut-être moins.
Peut-être moins, voilà. Mais sauf que voilà, quand on est en plein mois de juillet, qu'on voit un rat de la taille d'un chat sur son muret de jardin, on se dit ouais là il y a un problème. Et les services d'hygiène qui nous disent mais non, ça vient pas des maisons murées, madame. Puis si vous voulez que ce soit moins sale et moins de rats, vous n'avez qu'à y mettre du vôtre. Ouais non, moi je suis désolée. Les maisons sont murées par la mairie. Les problèmes d'hygiène, ben c'est à cause de la mairie. Et si les maisons murées avaient été habitées tout de suite. En attendant que ce soit réellement réhabilité comme ils veulent le faire, il y a des familles qui auraient été relogées au lieu de vivre de louer à des marchands de sommeil.
Non, pour dire les choses clairement, ouais, des marchands
voilà,
de sommeil.
Voilà, hein, faut être honnête, il y en a, faut pas se le cacher. Et puis je pense que voilà, il y a rien qui a été fait dans une bonne logique. Si les maisons, quand elles ont été rachetées, avaient été louées, ça aurait été entretenu, on aurait eu moins de problèmes et puis on se serait peut-être moins posé de questions. Enfin, c'est que mon point de vue.
Tout ça est très bien relaté dans le film, je pense.
Ouais.
Lucas est encore avec nous.
Oui, tout à fait.
Ouais. Lucas, peut-être juste sur la trame du film, parce que c'est vrai que sur moi, j'ai vu le premier G, j'ai pas vu le second, donc j'attends impatiemment. Je rappelle le 18 janvier au duplex à Roubaix, hein, et j'imagine que ce film tournera dans la région et ailleurs en France. Peut-être revenir sur la genèse, l'historique de la mobilisation, parce que au début, vous avez pas forcément d'image. Alors, vous avez fait avec des bouts de film de téléphone portable, avec des photos. Racontez-nous comment vous avez fait, Simon, Lucas.
Ben, c'est un peu pour ça que tout à l'heure qu'on parlait de à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que nous, on est arrivé. En fait, on a suivi la table à partir de, je pense, octobre 2016. Mmh. Et en fin de compte, on a commencé à filmer en février. Et la table de quartier a commencé en juin 2015, si mes souvenirs sont bons.
C'est ça.
Et donc en fait, on a les images des 6 derniers mois de la table de quartier. Et on a dû reconstituer tout ce qui s'était passé avant parce qu'il s'était quand même passé plein de choses. Et donc on a réussi à se débrouiller avec effectivement comme vous le dites, des photographies, des vidéos de téléphone portable, des vidéos tournées de manière amateur par des stagiaires de la NRJ. Et donc tout ça fait je pense donne un aspect un peu crade au film, mais aussi un charme, quoi. Je sais pas si mon...
C'est la précarité de la vie, entre guillemets, associative et de la vie militante, quoi.
Non, mais c'est un peu ça.
Simon?
Ouais, bah du coup là pour rebondir du coup plus sur ce que disait Audrey, c'est-à-dire que c'est ça un peu le point central et qu'on comprend bien assez rapidement, j'espère, dans le film, c'est que c'est la situation ubuesque où on est dans un quartier où de fait depuis plusieurs années voire dizaines d'années, il y a des maisons qui sont murées dans certaines rues de manière presque majoritaire, quoi. Et où quand on va faire un projet qui vise à détruire certaines maisons pour réaménager, faire des espaces verts, etc., on va choisir des maisons qui sont encore habitées par des personnes qui désirent, elles, rester dans le quartier. Et donc du coup, la première réaction des gens, c'était de dire mais il y a des dizaines et des dizaines de maisons qui sont murées depuis des années, qui tombent en ruine, etc. Pourquoi vous prenez pas ces maisons pour faire vos aérations, pour faire vos espaces verts? Ok, on est d'accord pour faire des espaces verts, il y a pas de souci avec ça. Mais pourquoi vous vous y prenez comme ça? C'est un peu le voilà, c'est on comprend pas ce sentiment d'être voilà ce comme quelqu'un le dit dans le film, je trouve que c'est une très belle expression, genre le crayon de l'urbaniste qui tombe comme ça sur une maison, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des personnes qui ont fait ça pour faire ce type de choix, quoi. Et voilà. Et donc du coup, au lieu de, donc on arrive à une situation comme ça, pourquoi? Parce que au lieu de dans un quartier, quand il y a un projet de rénovation urbaine, évidemment, il y a des gens qui sont bien dans le quartier, il y a des gens qui sont moins bien dans le quartier, il y a des gens pour qui ça va être une opportunité, il y a des gens pour qui ça va être un problème. Donc voilà, c'est prendre en amont toutes ces aspirations là. Je veux dire, il y en a pour qui ce projet, en fait, ça aurait pu être une chance. Justement de faire autre chose, etc. Et je pense par exemple pour Audrey, il y en a d'autres pour qui auraient voulu voir leur quartier changer, je pense, et qui auraient été super heureux de ça. Je pense à des gens comme Yolande, des gens comme Marie, des gens comme Sakina, voilà, enfin des personnes qui aiment leur quartier, qui ont tout leur réseau social dans le quartier, qui vivent aussi de ces solidarités, etc. Donc dans lesquelles on va taper, surtout en direction de personnes âgées, c'est des choses qui font assez mal. Donc voilà, c'est pourquoi on travaille comme ça aujourd'hui dans des projets de rénovation urbaine, et on retrouve encore les mêmes problématiques à la Lyon-Drie, on a retrouvé les mêmes problématiques dans d'autres quartiers, et ça se passe partout comme ça en France, quoi.
Ouais, voilà. Moi je pense, c'est pour ça que le film, je pense, a une portée, concerne le PIL et la situation du PIL, mais en fait a une portée beaucoup plus large, et qu'à mon avis, beaucoup d'habitants concernés par ces projets-là peuvent se retrouver dans ce film-là à un niveau national. C'est qu'effectivement, on a des politiques de rénovation urbaine depuis maintenant 10 ans qui se mettent en place, où on privilégie le bâti, l'intervention sur le bâti, les maisons, le crayon de l'urbaniste, je pense que effectivement une très belle image. On privilégie ça sur les personnes qui habitent, en fait. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes ont envie de rester là. On n'arrive pas à mettre en place des accompagnements avec les gens pour essayer de faire ressortir voilà ce qu'ils veulent pour leur quartier. Et donc, on privilégie l'intervention technique sur les questions du bâti. Et après, les gens ne sont plus que des variables où on essaye de gérer. Voilà, faut faire 3 réunions de participation. Parce que ces politiques-là, elles sont mises en place d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut définir un projet avant même d'avoir les financements. Pour avoir les financements, il faut donner quasiment un projet clé en main. Donc après, on peut demander tout ce qu'on veut aux habitants. Le projet, fondamentalement, ne peut pas bouger. Les financements ont été donnés pour un projet qui comprend 3 grands axes, et ces 3 grands axes ne peuvent pas bouger. Donc après, on met devant le fait accompli des habitants, c'est-à-dire que ça a été décidé, là-dessus, on ne revient pas. On peut revenir sur des choses à la marge, mais le fondement, on ne revient pas là-dessus. Et donc là, de toute façon, il y a des problèmes qui se posent.
J'aime bien l'idée de variables, des personnes qui sont des variables, finalement, des variables avec des données inconnues. On a voulu être connu ou reconnu de par les problématiques qu'on rencontre dans le quartier. Et le fait d'avoir voulu être reconnu pour différentes raisons, pour différents motifs d'intervention, puisque je pense que, comme le disait Simon, il y a des personnes qui veulent rester, des personnes qui veulent partir. Il y a de tout dans ce quartier, comme dans plein d'autres quartiers en France. Sauf que quand on a voulu se faire entendre en disant « mais non, enfin vous faites parfois les choses un peu à l'envers », on nous a taxé d'être politisés, d'être presque des crédules, des imbéciles. Enfin, c'est peut-être là de l'interprétation, mais nous dire qu'on est juste des moutons qui suivent tel ou tel assonnant.
Ou manipulés par les masses.
Si je reprends les termes d'un journal que j'ai vu qui m'a un peu fait bondir, je crois que j'ai dû avoir une vingtaine de cheveux gris en plus quand je l'ai lu. Je pense que quand on a voulu se regrouper, c'est parce que déjà on n'est pas si bête que ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs incohérents, que individuellement on n'était pas reconnus, donc on a eu besoin des associations, et puis de fil en aiguille, effectivement le film s'est monté aussi autour de ça, c'est que on s'est regroupé, on a eu besoin d'aide de telle ou telle association, enfin de plusieurs personnes. Et puis on a été complètement discrédité, puis on s'est rendu compte que les décisions étaient déjà prises depuis belle lurette, et que si un tel doit être expulsé, il le sera quoi qu'il arrive, et si une autre doit rester dans sa maison parce qu'elle n'a pas le choix, ben on y restera.
Luca, peut-être juste un mot pour te libérer, je t'en prie.
Si je pouvais juste ajouter quelque chose pour revenir justement sur le film,
Je pense que le film n'a pas vocation à être une description exhaustive ou une analyse complète de ce qu'a pu être le projet de rénovation urbaine du quartier du Pil.
Plus de la mobilisation des habitants et des citoyens.
Le film ne va pas donner son avis sur est-ce que le projet de requalification du quartier est bien, est mauvais, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été relogés, etc. Je pense que ce que nous on a voulu faire avec Simon et avec les habitants et les habitantes avec lesquels on en a discuté, c'est vraiment raconter la mobilisation et donc des trajectoires des habitants et des habitantes qu'on a accompagnés sur du moyen long terme et leur trajectoire personnelle, leur ressenti, leur sentiment de mépris, leur sentiment de blocage, leur désespoir à certains moments, puis leurs espoirs à d'autres, leur colère, etc. Et donc, je pense que c'est peut-être la portée peut-être pas universelle, mais ce que disaient Simon et Tonio tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que d'autres quartiers vont pouvoir le regarder en se disant moi j'ai vécu la même chose, etc. Tiens, je pense à au fait qu'on a raconté quelque chose d'humain et de précis et on s'est concentré sur les histoires et les récits des gens. Voilà, plus que sur une analyse statistique et complète de ce qu'a pu être un projet de rénovation urbaine.
Très bien. Merci en tout cas, Luca, d'avoir pris un peu de temps ce jour de repos à Paris. Non, je pense que tu bosses.
Oui, je bossais sur le film, sur les derniers détails du film ce matin.
Ah, en plus. Bah écoute, merci à toi, bon courage et puis au plaisir de te voir chez les Ch'tis.
À bientôt.
Salut, Luca. André, tu veux rajouter quelque chose dans le conclusion? J'allais dire, juste peut-être ajouter que tout ça n'a pas pu avoir lieu sans le soutien, je le rappelle, de la Fondation de France, de la Fondation Abbé Pierre et du ministère de la Culture, parce que il faut aussi remercier nos fameux donateurs pour la réalisation de ce film, ça c'est une chose, mais aussi de la mobilisation de la table de quartier, de ses habitants, de ses associations, en l'occurrence nos amis de la PU qui sont là avec nous, qui étaient présents, l'Université Populaire et Citoyenne, l'association Énergie sur le quartier du Pil, et puis la radio qui a permis d'avoir de bons sons, de très bonnes interviews qui nous ont permis de monter ce film-là. En tout cas, la mobilisation, elle est collective à partir des associations locales et des militants et des associations. Et moi, ce que je peux dire pour avoir participé à cette aventure, c'est que ces lieux-là sont assez rares. Ces lieux de rencontres, de discussions, parce que on parle souvent de vivre ensemble, de faire société ensemble, et en fait, ces petits endroits où des fois on pouvait être 50, on pouvait être 10, on pouvait être 15, où la parole était libre, parce que je pense pas qu'on ait censuré qui que ce soit, même si on n'était pas d'accord sur tout et qu'on pouvait avancer ensemble. En tout cas, nous, ce qu'on aura pu faire sur cette mobilisation sur ce quartier-là du Pil, qui est un quartier historiquement populaire, historiquement ouvrier, avec une population issue de toutes les immigrations, c'est des lieux comme ça, où moi je dis c'est peut-être le dernier village de Gaulle, voilà.
Il y a Astérix et Obélix.
Je sais pas qui était Astérix, qui était Obélix, mais on le trouvera. En tout cas, il y avait de quoi faire. Ces lieux sont rares, ces lieux de discussion, ces lieux de démocratie participative au sens noble du terme. Et je pense que c'est des lieux à préserver. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce sera peut-être mon petit coup de cœur sur ce film. Pour avoir vu la première version, on m'a dit que la deuxième version était encore mieux. Donc je sais pas, Audrey, Simon, bah, Antonio.
Je pense que ouais. Et puis au-delà de ce que tu dis, au-delà du fait de se retrouver, discuter ensemble, etc. Ce qui était à la base l'objet de la table de quartier, faut dire aussi que malgré les difficultés, malgré un blocage qu'on a connu qui était quand même assez féroce et qui n'a pas forcément lieu partout de la même manière en France, c'est que ça marche aussi, quoi. Et c'est ça qu'il faut souligner. C'est-à-dire que la table de quartier et la réunion des habitants, elle a aussi permis d'avancer sur plein de dossiers, quoi.
Enfin, disons que contre notre propre gré, hein, là, sur notre plein gré, comme je disais il y a quelques années.
Virac.
Je pense qu'on a réussi à créer du lien social en se regroupant et on a aussi lutté contre l'isolement et les problématiques des uns et des autres qui étaient individuels. On en a fait un collectif et c'est vrai que...
Et des belles rencontres.
Des belles rencontres. On a essayé tous de sortir la tête hors de l'eau, quoi. C'était pas gagné dans un quartier où on est tous très différents. Mmh. Et je pense que sur l'expérimentation de la table de quartier, ça a plutôt matché. Je pense qu'il faudrait continuer. Donc, un petit mot quand même, je le place parce que la PAC est toujours existante, hein, l'association,
oui,
hein,
oui,
puis
oui,
l'Action
oui.
Citoyenne. On n'a pas pour vocation d'être aussi fort que la table des quartiers.
Mais c'est une émanation, entre guillemets, de cette mobilisation.
Exactement.
Des différentes assos, que ce soit le comité de quartier Sainte-Élisabeth, que ce soit la énergie qui était à l'époque à la maison du projet, qui se retrouve à la rue, que ce soit l'UPC qui se retrouve maintenant aussi sans salariés. Mais bon, tout ça, c'est les conséquences, parce qu'il faudra peut-être un moment aussi, après le débat, je pense, le jour du film, qu'on en parle, parce que les conséquences et les dommages collatéraux sont quand même assez importants en termes de mobilisation et de coûts. Parce que ça a un coût, tout ça. La mobilisation, ça, moi, je trouve que ça en vaut la peine. Mais malheureusement, on se retrouve avec des gens qui ont perdu leur job. Je pense particulièrement à Anne et à Vincent qui se retrouvent sans plus aucune subvention à l'Université populaire citoyenne. On a fait une conférence de presse il y a quelques jours. Donc voilà, c'est aussi ça. Mais en même temps, je pense qu'il faut que ça continue et que ça s'arrêtera pas.
Je pense que même si certaines assos ont éclaté du fait du manque de subventions pour X et Y raisons, que même si tout a explosé, il faut quand même pas oublier qu'il reste des cendres. La PAC en est peut-être une, et d'une cendre, on peut refaire un bon petit feu.
Des cendres du phénix renaissent.
Exactement.
Donc, on vous invite tous le 18 janvier à 19h au duplex pour voir ce film. Pile, permis de démolir, un documentaire réalisé par Collectif Hiatus, avec nous Simon et Luca Roxo qui ont réalisé ce film. La lutte des habitants du Pile Roubaix pour leur avenir et celui de leur quartier. Vous êtes tous conviés, et puis j'allais dire, je vais peut-être faire gagner une place ou deux en fin d'émission pour les auditeurs qui ont été attentifs. En tout cas, je vous remercie.
Merci à vous de m'avoir reçu.
On a passé plus de 30 minutes, ça passe très très vite, hein, Simon.
Trop.
Et avec nous, on fait une petite pause et nous allons recevoir une journaliste du nouveau média Médiacité, Nadia Kadi, qui a réalisé un bon papier sur la politique de logement sur la Melle, l'île métropole, la communauté urbaine, ce qu'on appelait la communauté urbaine. Et là, on va continuer à parler de discrimination d'accès au logement, mais surtout de discrimination liée aux questions de classe. Tout à l'heure, on parlait de discrimination liée à l'origine et à la discrimination raciale, et en fait, elle se cumule, hein, elle s'annule pas, elle se cumule.
Exactement.
Voilà, Audrey, merci à toi.
Merci Ali, merci tout le
monde. Simon, merci. Tonio, au plaisir. Donc, tous les premiers samedis du mois, rendez-vous sur les questions de discrimination liées au logement. 13h passées 37 minutes, petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Merci.
Les membres de la table de quartier du Pile vous invitent à la projection débat du film Pile, permis de démolir, un documentaire du collectif Hiatus. Le jeudi 18 janvier, 19h, au cinéma Le Duplex, 47 Grand Rue, Roubaix. Ce documentaire retrace la lutte d'habitants du Pile à Roubaix pour leur avenir et celui de leur quartier. Plus d'infos, www.duplex.com.
Le lycée Saint-François d'Assise et Roubaix Sport et Culture organise le premier forum emploi sur Roubaix le mercredi 7 février 2018 de 13h30 à 18h. Seront présentes plus de 50 entreprises qui recrutent sur les métiers de la vente, le commerce, la relation client appel B2B, B2C, la sécurité, la restauration, la banque, l'assurance, les transports, les services à la personne, l'animation.
À la clé des CDI, CDD, contrats en alternance, en apprentissage, contrats de professionnalisation, intérim, contrats étudiants, job d'été, stage et recrutement dans la fonction publique, ce sont également des offres d'emploi pour les personnes souffrant de handicap.
Le forum emploi SFA est ouvert à tous, un forum emploi ambitieux où chacun pourra défendre sa candidature, un événement unique qui se déroulera au lycée Saint-François d'Assise, 59 avenue de la Fosse aux Chênes à Roubaix.
Renseignements et inscriptions sur www.forumemploi-sfa.com. Alors, rendez-vous à toutes et à tous avec vos CV le mercredi 7 février 2018 à partir de 13h30 au forum SFA.
T'as voulu voir Virzon et on a vu Virzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as pu aimer Virzon, on a quitté Virzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul.
T'as pu aimer en fleurs, on a quitté en fleurs. T'as pu aimer en bourg, on a quitté en bourg. T'as voulu boire en verre, on a vu que c'est trop beau. T'as pu aimer ta mère, on a quitté ça de ça. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, je n'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon.
T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai voulu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as pu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as pu aimer du tronc, on a quitté du tronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, elle est plus dans le Cantal. Et tant pis pour Bison, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta mère et on a vu ta sœur. Ou l'inverse. Allez chanter. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu ses pompiers. T'as pu aimer ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars, chauffez. Mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon.
Membre de la table de quartier du Pile vous invite à la projection débat du film Pile, permis de démolir, un documentaire du collectif Hiatus. Le jeudi 18 janvier, 19h, au cinéma Le Duplex, 47 Grand Rue, Roubaix. Ce documentaire retrace la lutte d'habitants du Pile à Roubaix pour leur avenir et celui de leur quartier. Plus d'infos, www.duplex.com.
Plus beau duplex. 99.4, merci fort de me jeter dans la piscine comme ça. 13h44, toujours en direct dans l'émission Citoyens d'abord sur Pastel FM. Avec nous toujours nos invités Tonio et Simon de l'APU de Lille-Fif. Et nous avons rejoint sur le plateau Nadia Daki, journaliste au nouveau journal en ligne, Médiacité, mais on en reparlera après. Et on l'a invité, merci d'avoir répondu à l'invitation, bienvenue.
Bonjour, merci en tout cas pour l'invitation.
Lille, les contradictions de la politique anti-ghetto, c'est un papier qui a été publié le 5 janvier sur le site de Médiacité et qui retrace un peu sur la métropole, on va dire, sur la communauté urbaine de Lille, les questions d'accès au logement et la difficulté, j'allais dire, de pouvoir accéder au logement quand on est pauvre. Parce que c'est ça dont il s'agit dans votre papier, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a beaucoup parlé de discrimination liée à l'origine tout à l'heure sur la fameuse enquête du CNRS, et en fait, les discriminations, elles se cumulent, elles ne s'annulent pas entre elles.
L'objet de l'article, c'était en fait effectivement de comprendre un peu une nouvelle politique qui a été mise en place par l'AMEL, qui est dictée par l'État.
Oui.
C'est un engagement qui est national. Et en fait, sur plusieurs mois, on a cherché à comprendre comment l'AMEL allait l'appliquer sur le territoire. Et du coup, on a passé plusieurs mois, justement, à, comme il l'expliquait dans le papier, à nous faire passer, nous, pour un...
Oui, allez-y.
À nous faire passer pour un bénéficiaire du RSA. Et on est parti, comme ça, dans plusieurs agences... LMH, alors LMH c'est le bailleur de la métropole, enfin de la MEL, c'est un bailleur public, pour en tout cas tenter de déposer une demande de logement en tant que bénéficiaire du RSA. Et voilà, l'article en fait déroule un peu cette histoire, à savoir que ben, selon les quartiers les plus difficiles en tout cas de déposer, enfin c'est pas qu'il est plus difficile de déposer cette demande, c'est que des agents des agences nous expliquer, alors je pense quelque part avec une forme de bienveillance, en fait c'était un conseil, que notre dossier ne serait pas forcément prioritaire si on demandait un quartier défavorisé.
Et vous avez fait comme ça 8 agences de LMH sur la métropole.
Voilà, c'est ça. Et ce conseil a été tenu dans les agences lilloises. Je tiens à le préciser, puisque j'ai été à Roubaix et à Tourcoing, et là, il n'y a pas eu de discours particulier.
Donc c'était plutôt sur Lille. Et votre enquête, vous disiez, elle a duré plusieurs mois, et vous avez pris la situation d'une jeune femme là, qui s'appelle Aurélie.
C'est ça.
Alors, dites-nous comment ça s'est déroulé avec Aurélie. Elle existe, Aurélie ?
Elle existe réellement, Aurélie.
c'est pas une invention ?
Pas du tout. Aurélie, elle a 38 ans, elle a un enfant. Elle vit à Lille, dans un studio. Et en fait, elle nous a contactés parce que elle avait elle-même déjà entendu ce discours. Et elle se posait la question, parce qu'elle comprenait pas pourquoi, en fait, on lui disait, mais en tant que titulaire du RSA, ça va être compliqué d'avoir un appartement. Alors, dans son cas, c'était, elle demandait l'île Sud ou l'île Fives. Elle habite Oisem.
Elle aurait collé dans le vieux Lille, non ?
Elle pensait, en tout cas, c'est ce qu'elle nous racontait, elle pensait que ce serait plus facile d'aller sur ces quartiers-là.
Ouais. Elle a intégré le...
Oui.
C'est terrible, ça.
Donc, elle s'était dit que ce serait plus facile. Or, elle a été étonnée d'apprendre que, ben, au contraire, non. Elle a eu un premier espoir quand on lui a dit, dans ce cas-là, demandez l'île centre. Parce que comme vous êtes, vous, titulaire du RSA, et que l'idée, c'est de mélanger les...
Ça s'appelle la mixité sociale.
Elle s'est sentie encouragée, en tout cas, et elle trouvait ça plutôt même très louable. Sauf, comme il est expliqué dans le papier, les taux de rotation, c'est-à-dire le nombre d'appartements qui se libèrent sur ces quartiers-là, en tout cas l'île-centre, les quartiers dits moins défavorisés socialement, sont pas énormes. Donc là, elle a pris une douche froide et elle a compris qu'elle risque en tout cas de rester peut-être plus longtemps que prévu dans son studio avec son bébé.
Surtout quand Aurélie demande d'avoir un F3, c'est-à-dire une chambre pour elle et une chambre pour son enfant, ce qui est à peu près logique dans une famille monoparentale ou pas, hein, d'avoir une chambre pour un enfant. Et là, on lui explique que ça ne va pas être possible.
Alors, Aurélie, elle voulait, sa prétention, c'était ne serait-ce qu'une seule chambre. Elle n'en voulait même pas deux, vu qu'elle vit dans un studio. Elle voulait une chambre. Et elle a été un petit peu bousculée parce que je l'accompagnais ce jour-là à l'agence LMH. Et c'est vrai que la dame en face lui dit, mais non, vous savez que la loi, c'est deux chambres, vu que vous y avez vous et votre enfant, donc vous devez demander un F3 et pas un F2. Et donc c'est un petit peu paradoxal, voire même un peu ironique, parce que actuellement elle est dans un studio.
Ouais.
Et on lui dit, mais non, vous êtes, entre guillemets, vous
avez
devez
droit.
Pas, voilà, vous devez même pas demander un F2, c'est un F3 que vous devez demander. Ok, mais elle comprend bien qu'elle l'aura pas de toute façon.
Donc, ou alors dans plusieurs années.
Ouais.
Je pense que c'est un papier assez important parce qu'en tout cas, nous, à la PUFIL, ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a vues dans le quartier qu'on n'arrivait pas à systématiser, à rassembler comme ça. Je sais que sur l'agence de FIV, énormément d'échos qui nous venaient des personnes qui venaient nous rencontrer, c'était de dire maintenant sur FIV, c'est ou des salariés ou des retraités. Et donc, vous êtes au RSA, on dépose pas de dossier, c'est des salariés et des retraités, politique, mixité sociale. Et donc, nous, on savait pas très bien à quoi ça faisait référence directement, quelles étaient les politiques derrière. Et d'autant plus que cette question de l'attribution du logement social, c'est une des questions les plus compliquées parce que les gens arrivent avec vraiment beaucoup de ressentis en disant, moi, j'ai des expériences, j'ai vu des gens qui sont passés devant moi, donc il y a du piston. Donc nous, on essaie de faire comprendre que c'est pas forcément du piston, que peut-être du piston peut exister, mais que c'est pas forcément ça, c'est qu'il y a des politiques qui sont mises en place, il y a des orientations en fonction des territoires, et il y a vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, un sentiment d'injustice là pour le coup, les gens ressentent vraiment autour de la question de l'attribution du logement social, ressentent vraiment un sentiment d'injustice très très fort, et donc là ça permet de cadrer un petit peu le truc et de pouvoir un peu mieux comprendre pourquoi, qui on accueille, à quel endroit et comment.
Je t'en prie, Simon.
Ouais, pour rebondir sur deux choses qui ont été dites déjà, sur la question justement donc des familles monoparentales, nous c'est vrai que donc comme disait Antonio en début d'émission, nous ça fait partie des publics qu'on s'est rendu compte cette année qu'en fait qui était vraiment très présent, qui venait régulièrement nous voir à la PU pour ce type de problème quoi. Et par contre ça c'est des catégories sociales qui sont pas prises en compte par la puissance publique. Donc c'est pour ça que c'est important des articles comme ça de montrer que c'est de faire émerger les problèmes par rapport à des catégories sociales ou des catégories familiales qui sont pas du tout prises en compte par la loi, encore moins chez les bailleurs, etc. Donc voilà. Et après sur la question du surpeuplement, ça c'est vrai que c'est un peu le côté complètement paradoxal du truc, mais choses qu'on rencontre aussi bien à FIV qu'à l'île sud qu'à Roubaix par exemple, où de fait les gens donc du coup s'installent dans un logement, du coup ils ont une vie familiale, donc ils ont des enfants, et donc du coup le logement devient trop petit, donc du coup on fait une nouvelle demande de logement social pour avoir un logement plus grand avec un nombre de chambres conséquent pour les enfants. Chose qui met énormément de temps parce qu'il y a une grosse pénurie de logements de taille des T4, T5, c'est très compliqué d'en trouver, et quand on est dedans, il y a peu de rotation, donc la question de la rotation des logements sociaux est très importante aussi, et donc du coup on se retrouve dans des situations de surpeuplement dans certaines maisons où les parents dorment dans le salon pour que les enfants puissent avoir une chambre ou avec les enfants, etc. ce qui en plus a des répercussions après, on le sait très bien, sur après l'école, etc., la santé, pour un enfant, avoir un environnement à lui dans une maison, c'est quand même super important en termes d'identité, en termes de construction, etc. Donc voilà. Et qui du coup après, donc face à ces problèmes-là, vont dire non mais moi je m'en fous, je sais, j'ai 3 enfants, mais je vais pas demander un T5 parce que je sais que je l'aurai jamais, ou un T4 parce que non mais donnez-moi juste une chambre supplémentaire par rapport à ce que j'ai et ça m'ira très bien. Et donc on est vraiment dans une détresse qui amène les gens à du coup même accepter d'être hors la loi quoi, d'être hors la loi, alors qu'ils le sont, mais parce qu'ils le sont de fait quoi.
Peut-être juste pour revenir sur LMH, parce que le problème, vous dites que la structure du parc immobilier d'LMH, avec 32 322 logements, ça représente quasiment un quart de la capacité de logement de la métropole. C'est énorme. Parce que 25%, 26% sur la métropole. Alors vous dites Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, le bailleur social de la MEL dispose de biens dans des communes dites riches.
Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, le bailleur LMH possède effectivement quasi 33 000 logements, donc c'est conséquent, hein, ça représente 26% en fait du parc de logement social pour la métropole. Mais quand on regarde ça de manière plus précise, l'essentiel de son parc est concentré sur 4 villes. Donc l'essentiel en fait des appartements dont dispose LMH,
c'est Villeneuve-d'Ascq et Lille.
Voilà. Donc ce sont pas des communes dont l'indice de fragilité, c'est-à-dire l'indicateur de précarité est bas. Je sais pas si c'est clair. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que LMH, par exemple, comme je l'écris dans le papier, n'a pas un nombre important de logements dans des villes comme Bondu ou d'autres villes qui seraient, en tout cas, moins sinistrées socialement.
Non, parce qu'ils respectent pas la loi. Ces villes-là, elles ont pas les 20% ou les 25% maintenant, je sais plus, de logement social qui est légal ou autorisé par la loi.
Alors pour certaines communes, oui. Certaines communes préfèrent payer des pénalités. Donc, alors ça se durcit maintenant. Hein. Donc, on verra justement comment elles vont répondre à cette obligation. Mais effectivement, le problème, en tout cas, pour la mise en place de, alors ça s'appelle l'assiette. La convention intercommunale d'équilibre territorial, qui encadre en fait cette mixité sociale par le logement. Effectivement, on s'est intéressé à l'enjeu et en tout cas aux difficultés auxquelles va devoir faire face LMH pour mettre en place cette assiette. Parce que son parc immobilier est concentré sur 4 communes. Donc l'une des réponses, c'est la construction, mais c'est long, ouais. La construction.
Et puis les années qui arrivent, elles ne vont pas être fameuses.
Donc avec notamment le projet de loi de finances, donc l'apport en tout cas financier pour les constructions risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Et l'autre réponse, c'est de mettre tous les bailleurs sur un même pied d'égalité par rapport à cette obligation. Et c'est ce que tente de faire l'assiette, finalement.
L'assiette est une belle initiative, mais son application risque d'être difficile car elle repose sur une certaine utopie. Il faut de l'utopie pour continuer à espérer ou à lutter, ou comment?
Alors cette citation, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur adjoint de LMH.
Monsieur Arnoux?
Oui. Alors je ne sais pas s'il faut une certaine utopie. Je pense que c'est difficile de déplacer des populations.
Il dit, hein, je cite, hein, LMH construit 300 à 350 logements par an. Ce ne sera plus le cas si la réduction des loyers est imposée comme le prévoit la loi de finances 2018. Donc de 300 à 350, on risque d'en perdre un certain nombre. Donc la situation, elle va pas aller en s'arrangeant. S'il y a une suite logique dans ce qui est dit dans votre papier.
C'est ce qu'on essaye de soulever, en tout cas dans l'article. C'est les questions qu'on soulève. On ne sait pas effectivement comment la MEL peut encourager, en tout cas les élus et les maires à appliquer en tout cas cette obligation de logements sociaux sur leur territoire. Il parle déjà de sanctions, mais il compte en tout cas sur l'optimisme et sur la volonté des signataires. Mais effectivement, certaines sanctions peuvent être envisagées, même s'ils n'en sont pas du tout là, vu qu'on est au tout début de l'application de la politique.
Et donc, juste pour comprendre, c'est que en fait, ces politiques ont des effets pervers, c'est-à-dire que les populations les plus pauvres n'ont plus accès aux quartiers populaires, on va dire, n'ont plus accès parce qu'on cherche à privilégier l'arrivée de ménages plus riches dans ces quartiers-là, et de l'autre côté, ils n'ont pas accès aux quartiers plus riches vu qu'il y a peu de logements sociaux qui y est construit et qu'il y a peu de rotation qui est fait. Et donc, si je comprends bien, c'est un peu ça où, avec une politique volontariste de mixité sociale, de mettre en avant la mixité sociale, on en revient à ce que les populations les plus pauvres soient pénalisées dans l'accès au logement social, encore que plus. Ce soit dans les quartiers pauvres ou que ce soit dans les quartiers riches.
Et se retrouvent entre les mains des marchands de sommeil, pour une partie d'entre eux.
Bah, ça dépend des endroits, mais c'est vrai qu'en général, le marché du coup du privé reste plus cher que dans le marché public. Après, il y a des cas de figure un peu particuliers, comme par exemple à Roubaix, où c'est pas forcément le cas. On le voit dans le
quartier. T'as pris le bon exemple.
On voit dans le quartier du Pile, où de fait, voilà quoi, genre les propositions de construction de logements sociaux, on se rend compte que finalement, le logement social qui pourrait être construit là-bas coûterait plus cher que le logement privé qui est le logement existant. Donc on arrive, voilà, c'est un peu une situation qui est assez particulière à Roubaix et à d'autres quartiers. Mais voilà, ouais.
Oui, c'est pas facile, hein. C'est ambitieux, hein. Il faut quand même rappeler que la métropole, c'est la première, hein, en France.
La première expérimentation c'était qui? Emmanuel Cos, qui était à l'époque ministre du Logement,
voilà,
qui était
venu
signer,
oui.
Ce que vous dites dans votre papier.
C'est ça. En fait, c'est la première agglomération à mettre concrètement en place des actions sur cette échelle de territoire. Donc, c'est pas facile. C'est ce qu'on explique dans le papier.
On a le mérite d'avoir essayé ou de commencer, quoi.
Voilà, c'est ça. On est au tout début. Alors effectivement, Aurélie aujourd'hui le dit clairement, hein, dans le papier. Elle, l'impression qu'elle a, c'est que finalement, elle ne peut pas prétendre à un appartement plus grand dans un quartier populaire. Mais l'utopie peut-être d'un appartement dans un beau quartier semble lui échapper, parce que finalement, il n'y en a pas, en tout cas, ou il n'y en a pas de libre. Alors, LMH se défend, entre guillemets, en disant que ils ne mettent personne dehors et ils ne refusent certainement pas les pauvres, parce que leur politique, on peut dire ça comme ça, d'attribution, c'est, enfin, ils veillent aussi à, comment dire, à la vacance. C'est-à-dire que un appartement qui est vide, ils perdent de l'argent dessus. Donc, ils vont faire, si un appartement essuie 3 refus de suite, ils peuvent déroger à cette obligation de l'attribuer à un profil type recherché pour le secteur. Donc, si je prends, alors, un quartier sinistré, donc théoriquement, on devrait rechercher des salariés. Si 3 salariés refusent cet appartement 3 fois de suite, on peut l'attribuer à une personne titulaire du RSA. Mais Aurélie, quand on lui soumet ça, elle nous a clairement dit, mais 3 refus de suite, enfin,
c'est assez rare quand même.
C'est rare.
Alors c'est pour un produit qui est vraiment dans un état, dans un quartier...
délabré.
Voilà. C'est ça, c'est ça qu'on peut se dire aussi. C'est un peu les paradoxes de la mixité sociale. C'est quelque chose que nous on dit souvent à la PU FIV, c'est-à-dire la mixité sociale, c'est aussi, ça fonctionne bien dans les quartiers populaires, à ramener des populations plus aisées. Et en fait, ça on l'a vu nous dans le quartier de FIV, où là il y a des politiques qui peuvent se mettre en place. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué dès qu'on arrive dans les quartiers riches où il s'agit d'installer des populations plus pauvres. Et donc c'est une mixité sociale qui fonctionne un peu que dans un sens. Et donc voilà, c'est là le gros paradoxe de la mixité sociale en règle générale. En
fait, oui, surtout que les quartiers riches sont en général les quartiers les plus homogènes socialement, quoi. Et c'est là que du coup que si on réfléchissait en tout cas de manière assez égalitariste, sans avoir un raisonnement qui pour le coup est assez classiste, quoi. C'est-à-dire il y a vraiment une distinction entre comment on va agir dans les quartiers populaires et agir dans les quartiers bourgeois. Voilà, quoi. C'est vraiment ça qui est assez alarmant et qui du coup donne le sentiment de la double peine pour les personnes qui sont du coup les plus en recherche de logement. Ouais.
Mais alors comment on fait pour sortir de ce sac de nœuds là?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors la question de la mixité sociale, donc elle repose un petit peu sur une espèce de consensus,
de volonté publique,
mais de consensus, genre sur de fait un équilibrage social des territoires sera vecteur, je sais pas moi, d'intégration, de machin, nanana. On peut faire ce raisonnement, on peut aussi faire le raisonnement inverse et dire que dans certains quartiers populaires, il y a aussi des liens de solidarité, des liens où aussi les gens partagent les mêmes expériences, où ils peuvent aussi du coup mieux s'entraider, mieux se comprendre, etc. Je veux dire, on va pas aller, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pas du tout aller emmerder les riches en disant ils sont trop homogènes, ils vivent trop entre eux, etc. Non, c'est parce que c'est toujours quand c'est les pauvres, c'est, quoi.
On demande pas une organisation de comité de quartier.
En tout cas, ça pose
dans
pas de problème.
Dans les quartiers chics de Bondu, quoi.
Ça pose
de
pas de problème.
De participation des habitants, tout ça, ça n'existe pas là-bas.
Donc ça veut dire qu'on donne le droit aux quartiers bourgeois à l'auto-organisation, à vivre ensemble, etc. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on refuse aux quartiers populaires, c'est-à-dire cette forme de centralité populaire qui est complètement refusé, donc qui est genre on dit voilà, enfin voilà, vous êtes, et qui entre les lignes montre une espèce de sous-citoyenneté, voilà, où vous n'avez pas la capacité de vous organiser ensemble. Par contre, eux, les riches, ils l'ont et ils le montrent, ils le font. Et c'est souvent là, dans ces quartiers-là, en plus, donc avec des mairies qui savent très bien que l'électorat derrière, s'il y a des constructions de logements sociaux, vont perdre des voix, etc. Et on le voit très bien. D'ailleurs, depuis en 2016, il y a eu plusieurs fois dans certaines villes de la métropole des manifestations qui ont été organisées par des habitants des quartiers bourgeois pour devant la mairie, en disant, en apprenant qu'il allait avoir des logements sociaux construits. Non, vous ne construirez pas de logement. Et là, pour un maire, bah voilà, quoi, qu'est-ce qu'il finit par faire? Bah, il dit, bon, bah ok, d'accord, on va essayer de négocier, et on préfère payer des amendes aussi plutôt que de répondre aux attentes de la loi, quoi.
Une réaction de journaliste.
Mais dans l'article, on évoque aussi en fait le dispositif un peu social, c'est que en tout cas moi c'est ce qui m'a été expliqué, c'est-à-dire que quand on construit des logements sociaux, quand on accueille des familles dites modestes voire très modestes, il faut un accompagnement social. Or, là, on parle de Lille-Centre, hein, mais Aurélie, on lui a proposé un appartement, alors je sais plus où, mais elle m'a dit au fin fond de... Enfin, ça lui paraissait très loin. Elle est à Oisem aujourd'hui, on lui a proposé... Alors, je sais plus...
CHR ou...
Non, c'était, alors je sais plus, Vambrechy, quelque chose de vraiment, okay, du coup. Alors oui, alors là, pour le coup, elle allait avoir un appartement plus grand, dans un logement social, donc qui reste accessible, mais elle se sentait, pour le coup, coupée
de son vie, réseau, de...
Et effectivement, la politique, en tout cas, mise en place par Lamel, en a conscience, parce que dans cette siette, ils mettent en place un dispositif social. Et notre interlocuteur de LMH nous dit que certains élus, finalement, s'ils refusent d'accueillir ces populations, c'est parce qu'ils savent qu'ils doivent allouer une partie de leur budget pour ces familles. Donc, quelque part,
donc, l'accompagnement social, il va avec CCAS et tout ce qui va avec.
C'est ça, exactement. Et effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ces familles dont les revenus sont bas, voire très bas, quand on leur propose peut-être un bel appartement en dehors de Lille ou de la couronne très proche, qu'est-ce qu'ils ont autour? Est-ce qu'ils doivent obligatoirement avoir une voiture pour se déplacer? Voilà, c'est toutes les questions en fait qui sont soulevées derrière ça.
Ça, c'est vrai que ce serait intéressant, parce que nous, c'est souvent les questions qu'on se pose, c'est du coup, vu de cette double pression, qu'est-ce qui se passe, où vont ces personnes, de fait, ça devient difficile même pour des gens donc d'aller à Roubaix, parce que du coup à Roubaix, pareil, on fait cette même politique, donc pour des personnes à très faible revenu, c'est compliqué de venir emménager. C'est la même chose dans les quartiers plus huppés. Où est-ce qu'ils vont? Et c'est vrai que plusieurs fois, nous, on a entendu, enfin, le truc, c'est, voilà, en fait, du coup, il y a un truc où, du coup, tu parlais de centre, de première couronne, etc., et on a l'impression qu'en fait, du coup, c'est des populations qui, de plus en plus, vont être amenées à aller dans un périurbain, ou etc., ou en tout cas, s'éloigner du centre, et on sait, comme tu disais très bien, que les ressources du centre sont pas du tout les mêmes que les ressources du périurbain, faut avoir une voiture, faut, etc., et donc, du coup, triple pénalité, quoi. Enfin...
Ou à occuper le parc de logements privés, en fait, mais des logements souvent dégradés, avec des coûts de loyer qui peuvent être très compliqués. Et ça, c'est une caractéristique de toute l'agglomération lilloise. C'est un taux de logements anciens très très important et qui accueille encore aujourd'hui une grande partie des classes populaires qui n'ont pas accès au logement social et qui se replient sur ce genre de logement. Et c'est pour ça qu'on a, en termes de logement indécent, logement insalubre, on explose tous les plafonds nationaux ici dans l'agglomération, quoi.
Ajouter à cela la gentrification de Oisem
et de certains quartiers anciennement populaires du centre de Lille.
On voudrait bien que gentrification à Roubaix. C'est possible, tu crois?
Je suis pas sûr que ça règle les problèmes. Hein. Je pense que ça les accentue en plus.
Très bien. Peut-être un mot de conclusion sur cette enquête. J'allais dire, elle devient quoi, Aurélie?
Elle est toujours dans son studio avec son bébé. Et elle espère.
Et est-ce qu'il y aura une suite à cet article-là? Pour suivre,
Alors, on a dans Mediacité ce qu'on appelle des compléments d'enquête. Alors, effectivement, on l'utilise quand il y a des éléments nouveaux ou quand ça permet d'enrichir un peu un premier papier.
D'accord.
Donc, oui, on va continuer à suivre Aurélie, voir si ça demande... Alors, on lui a proposé, elle m'a dit justement qu'on lui a proposé récemment un appartement plus grand, mais dans la résidence dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc ça pourrait un petit peu déroger un peu à cette règle, vu qu'elle est déjà dans un immeuble à Oisem, on va dire dans un quartier plutôt défavorisé. Sauf que quand elle l'a visité, il est totalement humide.
Oh, un truc à être malade, à rendre malade.
Avec un bébé, voilà. Donc, elle a refusé en ayant peur que, du coup, sa demande reparte un peu...
Totalement humide. Il propose des trucs qui n'ont même pas été retapés, quoi, entre deux.
Ben, c'est à elle de le refaire, mais il est... Voilà. Donc, là, pour le coup... Elle est un petit peu découragée. Elle est même totalement découragée parce que bon, son petit grandit et puis il va pas s'arrêter de grandir.
Dites quoi s'arracher les cheveux, les gars. Mmh.
Ça, il faut absolument justifier un courrier recommandé quand on refuse un logement social, peu importe de quelle manière il a été proposé.
Mais pourquoi ?
Toujours. Bah parce que sinon, en fait, ils vont dire personne de mauvaise foi. Personne de mauvaise foi. On propose des logements, elle refuse. Bah, c'est tout, on met de côté.
Et là, il faut signifier, écrire.
Il faut écrire, il faut justifier. Je refuse ce logement aujourd'hui parce que j'ai un enfant, que le logement est trop humide. Et essayer de mettre vraiment le plus de justifications pour vraiment dire, voilà, je suis de bonne foi. Je refuse parce que c'est clairement pas possible pour moi, pas parce que je fais mon difficile. Parce que, effectivement, des refus non justifiés... Le dossier est parti et vous pourrez attendre 3 ans à avoir une proposition.
Donc faudra dire à Aurélie ou si Aurélie nous écoute, il faut qu'elle vienne à la permanence de l'APU de l'IFIV.
Par exemple.
Qui a lieu quand, Simon?
Alors, j'ai pas les dates en tête là tout de suite.
Le prochain, c'est samedi prochain à 14h au 57 rue de Flers.
Voilà.
À l'APU FIV.
L'info est transmise et les auditeurs qui nous écoutent sont informés.
Et sinon, il y a un site internet avec toutes les infos dessus pour les autres permanences si vous n'êtes pas libre ce jour-là. Et du coup, c'est apufiv.org. Voilà.
Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour ce papier qui est rentré en plein dans notre sujet. On fait une petite pause, on vous garde avec nous sur le plateau pour peut-être parler de Médiacité, ce nouveau média dans lequel vous écrivez. 14h10 déjà. Enfin, encore une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité. Merci.
Parce que vous avez des choses à dire, des expériences à partager, parce que vous avez envie que ça change, Citoyens d'abord vous donne la parole.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir... Dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
L'atelier populaire d'urbanisme de l'île FIV et Radio Pastel, dans le cadre de l'émission Citoyenne à bord, vous propose un nouveau rendez-vous, La ville est à nous, une émission consacrée aux questions du logement, à l'habitat et aux enjeux de transformation des villes. Ce sera tous les premiers samedis du mois, de 12h30 à 14h, sur Pastel FM. 1, 2,
3, 4. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde, un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine. Une balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Là, le ministère des affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrière. En l'eau, tous des frères, plein nos repères. Jacques Brelbon, Marley, Aznav, la Pépère. Nos arts populaires, musique d'ici et d'ailleurs. On en a fait un ministère pour un monde meilleur. Influence, influence, de sonorité différente. De Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche. Du bon son pour tout le monde, du Joe Dernier jusqu'au grand-père. La balle populaire vers son troisième millénaire. Juste pour faire bouger les consciences, vaster les préjugés. Rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller. Du repli communautaire à l'heure d'une troisième guerre. Aux ordres on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Moi c'est Diaz, le maquisard, petit fils des Moudjahides, le montagnard. Sans gym, sans drapeau, sans nation ni patrie. Hybride culturel entre Occident et l'Algérie. contre la haine et l'injustice. J'ai pris les armes, c'est pour la mémoire de mon peuple. J'ai pris les armes dans ma cible. Dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste. Dans mon viseur, en guerre contre évasion, police, raciste. En guerre contre inégalité, pouvoir fasciste. Mon hip-hop, j'écris comme on brandit un drapeau blanc. Soldat pour la paix, je rime pour les innocents. Contre les dictatures, les embargos, les colonies, les bombardements, les invasions, les tyrannies. Je rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Violon, accordéon, grosse caisse, charlie, caisse claire. C'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, les têtes doubles de Robert. Tous ces bougnoules, des négros, des shintok, des jabers. Une seule et même musique, un seul et même bon son. Bon sang, bonsoir, ça perd pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La corrie humaine divise quand notre musique rassemble.
Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Un fennec, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons flingueurs du racadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chargeurs de rimes, remplis de ballons téflon. Je t'envoie tel un kamikaze révolutionnaire. Une mine, une bombe, une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Le lycée Saint-François d'Assise et Roubaix Sport et Culture organisent le premier forum emploi sur Roubaix le mercredi 7 février 2018 de 13h30 à 18h. Seront présentes plus de 50 entreprises qui recrutent sur les métiers de la vente, le commerce, la relation client appel B2B, B2C, la sécurité, la restauration, la banque, l'assurance, les transports, les services à la personne, l'animation.
À la clé des CDI, CDD, contrats en alternance, en apprentissage, contrats de professionnalisation, intérim, contrats étudiants, job d'été, stage et recrutement dans la fonction publique, ce sont également des offres d'emploi pour les personnes souffrant de handicap.
Le forum emploi SFA est ouvert à tous, un forum emploi ambitieux où chacun pourra défendre sa candidature, un événement unique qui se déroulera au lycée Saint-François d'Assise, 59 avenue de la Fosse Prochaine à Roubaix.
Renseignements et inscriptions sur www.forumemploi-sfa.com. Alors, rendez-vous à toutes et à tous avec vos CV le mercredi 7 février 2018 à partir de 13h30 au forum SFA.
Les membres de la table de quartier du Pile vous invitent à la projection débat du film Pile, permis de démolir, un documentaire du collectif Hiatus. Le jeudi 18 janvier, 19h, au cinéma Le Duplex, 47 Grand Rue, Roubaix. Ce documentaire retrace la lutte d'habitants du Pile à Roubaix pour leur avenir et celui de leur quartier. Plus d'infos, www.duplex.com.